Merci beaucoup et bonsoir à tous. Juste quelques mots pour présenter Morgane Labbé. Donc, elle est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle travaille actuellement sur les rapports entre statistiques et politiques de population en Europe centrale durant l'entre-deux-guerres, ainsi que sur le rôle des experts dans les négociations diplomatiques. Elle a publié notamment la carte ethnographique de l'Empire autrichien, la multinationalité dans l'ordre des choses. C'est une publication dans le Monde des cartes, revue du Comité français de cartographie en 2004. Les usages diplomatiques des cartes ethnographiques de l'Europe centrale et orientale. Et donc aujourd'hui, l'idée de cette invitation était de nous permettre, grâce à l'intervention de Morgane Labbé, de réinscrire, disons, dans le temps long, toute la réflexion et le débat que peuvent susciter aujourd'hui l'idée d'une production de statistiques ethniques, et notamment dans le débat français. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir accueillir ce soir Morgane Labbé. Et je dois signaler que les éléments que je viens de citer sur son parcours de recherche sont notamment issus d'un numéro de Critique internationale dont elle a coordonné scientifiquement un dossier qui s'intitule « Recensement ethnique et changement de régime ». Donc c'est juste paru dans le numéro 45 de Critique internationale, donc de la fin d'année, octobre-décembre 2009. Donc voilà, et merci beaucoup, et je vous laisse la parole.
Bon, comme j'ai beaucoup... Ah, je peux parler, là ? Ah oui, d'accord. Bon, comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais être brève, mais quand même, je voudrais remercier tous les organisateurs que je connais à peine, et remercier déjà tout le public qui est venu et que j'espère ne pas décevoir. Et juste vous dire que ça fait bien au moins une dizaine d'années, bien que dès que je quitte Paris, c'est pour aller à l'Est. Je dis, je mets le cap à l'Est, je vais en Allemagne, je vais en Pologne. Et là, c'est la première fois, peut-être depuis 12 ans, que je vais à l'Ouest. C'est un décalage. Et je trouve que on travaille comme ça avec des décalages. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Un décalage aussi géographique, mais aussi un décalage dans le temps. Alors, en introduction, évidemment, il y a cette statistique ethnique qui est un sujet polémique, vous le savez, et qui est devenu un des thèmes de la statistique actuellement les plus traités et les documentés par les sciences sociales, tout en bénéficiant d'une diffusion qui s'étend bien au-delà de ces cercles spécialistes, comme vous le savez, puisque la presse en rencontre régulièrement. Cette polémique, elle est d'abord française. Elle a surgi à la fin des années 80, quand on a envisagé de relever dans les enquêtes statistiques l'origine de la population qui était issue de l'immigration. La controverse née de cette éventualité, et cette éventualité, elle est toujours envisagée et débattue, portait non pas sur la construction des indices, mais sur le caractère réifiant des catégories ethniques que l'on utiliserait. L'âpreté de cette polémique française tient aussi au changement produit par l'introduction d'une question ayant trait à l'ethnicité dans la tradition statistique française, qui, conforme, pour dire vite, à un modèle jacobin et républicain, ne reconnaissait pas d'autres communautés que celles des citoyens. Donc, dans les dénombrements, aucune question n'était posée sur des caractères, pour dire vite, d'ordre ethnique, y compris sur la langue, les pratiques linguistiques et la religion. À la différence de la plupart des recensements européens qui, à partir du XIXe siècle, et surtout la fin du XIXe siècle, se sont mis à les enregistrer de manière routinière. Alors, dans cette conférence, je ne vais pas revenir sur cette polémique, à moins que nous en parlions dans la discussion, ni sur cette origine et spécificité française. Mon propos est plutôt de présenter la question de l'émergence de cette statistique ethnique dans une perspective historique qui est celle qui a été choisie par les organisateurs de cette session. Je vais donc vous proposer un décalage, en quelque sorte, comme je l'ai dit, avec ce thème contemporain de la discrimination, de la réification des assignations identitaires, mais aussi de l'émigration. Et je dirais que toute recherche, finalement, c'est proposer des décloisonnements et des décalages pour réinterroger nos objets habituels. Alors, je vais vous proposer je vais vous présenter ce que j'appelle un moment d'une mise en place de cette statistique. Un premier moment, mais pas le seul, je pourrais dire, mais qui, en tout cas, éclaire le lien qu'il y a eu entre l'émergence de statistiques ethniques et un modèle politique, celui de l'État national, qui devient, comme vous le savez, cette forme politique légitime de la souveraineté à partir du XIXe siècle. Je vais l'exposer à partir de mes terrains de recherche qui sont en Europe orientale et centrale, Allemagne, Autriche, Pologne un peu à la fin, au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, et selon trois parties, essentiellement chronologiques, mais qui sont aussi des moments de recomposition thématique de cette statistique. Dans une première partie, je vais présenter, je dirais, ce premier moment, la genèse, c'est ce que j'appelle le moment 48 de la représentation des nationalités en Europe centrale. Et cette représentation, elle passe par des cartes. Donc ce sont des cartes, que je dirais, de l'imaginaire national. Dans une deuxième partie, en remontant dans le temps, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, je vais vous présenter comment la nationalité, donc j'entends la nationalité au sens ethnique, est abordée comme un fait statistique dans les États nationaux, à partir de l'exemple de l'Allemagne. Donc je vais montrer comment cette statistique ethnique est liée à la formation de l'État national comme État de puissance, et comment le recensement devient une sorte de fabrique des statistiques ethniques. Et à partir de là, je vous indiquerai comment on arrive progressivement vers une conception démographique de la nationalité, d'où la nationalité, je dirais, comme un fait de population, ce qu'elle n'est pas en 48. Et enfin, dans une troisième partie, un peu plus conclusive, eh bien, je me demanderai, puisque c'est mon terrain, si cet exemple allemand constitue en quelque sorte une matrice des statistiques ethniques en Europe centrale. J'interrogerai cette question à partir de d'autres expériences que je présenterai alors brièvement, Autriche, Hongrie, Russie, et aussi son internationalisation, et puis aussi avec son devenir durant l'entre-deux-guerres, quand apparaît d'autres principes que celui des nationalités, l'autodétermination qui conduit à ce moment-là à l'auto-assignation dans les recensements. Première partie, genèse en quelque sorte, le moment 48. Alors cela peut être surprenant, mais quand on fait l'histoire des statistiques ethniques, et donc qu'on remonte quand même dans le temps, eh bien, on trouve un autre objet que les chiffres. On trouve des cartes, alors qu'habituellement, la carte, c'est quelque chose que l'on conçoit comme une réalisation à partir des chiffres, une illustration. Bien ici, il y a une antériorité de quelque chose qui est une représentation dans l'espace des nationalités. Pour quelles raisons trouve-t-on cette antériorité? Très simplement, parce que pendant cette période des années 1840, la représentation des nationalités qui passe par la forme cartographique dessine un espace des nationalités comme celui d'une souveraineté, donc d'un territoire politique, donc d'un État que l'on revendique. Une autre raison aussi qui explique qu'on trouve des cartes et pas simplement des chiffres, c'est parce que dans ces premières décennies du XIXe siècle, comme on parle de science et technique dans cette session, bien, notamment dans l'espace germanique, la statistique, ça ne désigne pas simplement un savoir numérique, mais plus généralement, on parle d'un savoir sur l'État, d'où ce terme Stadt, statistique. Savoir qui n'est pas nécessairement quantitatif, mais qui est surtout descriptif, classificatoire, et qui va regrouper des travaux qui sont présentés sous ces formes analogues, que sont tableaux, listes, inventaires, et donc aussi des cartes. Et donc les domaines que aujourd'hui de disciplines que l'on sépare, cartographie, géographie, statistique, ne sont pas encore séparés. Et on trouve des auteurs qui revendiquent les deux compétences, faire des cartes ou faire des calculs, qui produisent des calculs et des cartes. Et puis on trouve aussi, pendant longtemps, une même institution qui regroupe les deux types de travaux. C'est notamment le bureau de statistique qui va produire à la fois des cartes, cartes topographiques et mener des recensements. Et d'ailleurs, il y a souvent un lien entre cadastre et recensement. Donc cela étant posé, que ce sont les cartes qui ont l'antériorité, il est à peu près établi, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, que ces premières cartes dites des nationalités, elles apparaissent dans cet espace de l'Europe centrale autour de ce moment 48. Ce moment 48, c'est un contexte politique spécifique qui est marqué par des revendications des nationalités. Donc c'est une affirmation nationale, mais qui est encore inscrite dans ce qu'elle a d'émancipateur, c'est-à-dire qui se prononce contre des absolutistes. Donc c'est encore un nationalisme de liberté, comme on dit. Et donc il y a des enjeux politiques, évidemment, autour de ces revendications nationales, des Hongrois, des Tchèques, etc., et des Allemands, évidemment, qui va donner une impulsion qui n'a pas encore eu de précédent à la réalisation donc, de ces premières cartes à grande échelle sur le thème des nationalités. Alors, ces cartes, elles sont peu nombreuses, parce qu'évidemment, ça représente toujours du temps et un certain coût. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'à cet âge, qui était encore débutant dans l'imprimé, qu'elles soient produites en grand nombre. Et donc, on en dénombre, en gros, 3 pour l'Allemagne. Donc, je vous fais figurer en français les titres sur cette projection. Et puis, à cette carte allemande, on peut ajouter 2 cartes autrichiennes. Et une dernière carte, oui, que j'ai indiquée aussi, qui est une carte d'un auteur slovaque qui s'appelle Šafářík, une carte des pays slaves. Et puis, il y en a une troisième qui est une carte du gouvernement de Saint-Pétersbourg que je n'ai pas mis. Donc, juste un petit groupe de cartes. Mais elles sont très intéressantes parce que, évidemment, elles sont liées à un projet politique et donc elles vont l'énoncer. Ce projet politique, il n'est pas le même, en revanche, selon les cartes allemandes et autrichiennes à cette époque. Si on prend les cartes allemandes, c'est un projet d'unification politique, c'est-à-dire c'est un projet qui tend vers l'édification d'un État national et qui est donc un projet à advenir. À cette période, on est dans un territoire qui est hétérogène sur le plan politique, on a des États allemands. Et donc ces cartes, au contraire, elles vont représenter un espace national et qui sera unifié et qui doit anticiper un espace politique. Donc on peut dire qu'elles rendent présent dans l'ordre graphique quelque chose qui est encore absent dans l'ordre politique, mais que l'on veut faire advenir. Alors, je pense... Voilà. Alors pour rendre présent cette unité qui est recherchée dans l'ordre graphique, les auteurs, avec une grande évidence, ils donnent à voir donc dans cet espace quelque chose comme une surface qui est uniformément colorée. Alors les projections sont toujours un peu plus pâles, évidemment, d'une entité qui, comme on le voit ici, je pense, là aussi, d'une entité qui, surtout sur la précédente, est dénommée simplement par un titre. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas encore écrit État, il n'y a pas écrit Empire, mais il y a ce mot Allemagne, Deutschland. Cette entité, elle est délimitée, mais ses limites coïncident en grande partie avec celles de la Confédération germanique. Parce qu'à cette date, ce qui importe, c'est moins des frontières extérieures, donc c'est moins de délimiter vis-à-vis de l'autre, que d'unifier un ensemble territorial qui est hétérogène et donc dont l'unité ne va pas de soi. Donc, les auteurs vont répondre à ce défi en construisant donc une unité, en quelque sorte, de l'intérieur. Ils vont projeter des limites de langue, en particulier des limites de dialecte allemand, en tant que tous ces dialectes, tous ces parlers locaux, eh bien, ils composeraient une seule langue. Et donc, s'ils composent une seule langue, eh bien, leur territoire compose une seule entité, une seule unité qui est donc nationale. On a donc une unité nationale et territoriale qui procède d'une unité linguistique et on s'inscrit à ce moment-là dans une tradition allemande de la nation, Fichte, Humboldt, qui est déjà bien établie. Ce sont donc ce milieu du XIXe siècle les travaux des linguistes qui font autorité et qui constituent leur source. Ce ne sont pas encore les chiffres. Alors en Autriche, en revanche, dans cette décennie, il y a aussi des cartes qui apparaissent, et une, la plus monumentale, s'appelle la carte ethnographie de la monarchie autrichienne. Cette carte est très différente, mais elle est aussi liée aux circonstances politiques de 1848. Elle est différente parce qu'elle ne va pas célébrer un État national, mais au contraire, elle va représenter le rétablissement d'une monarchie autrichienne qui a réprimé les mouvements nationaux. Donc on voit aussi le thème de l'unité qui est au cœur de son projet, mais c'est une unité différente, c'est une unité d'un empire et qui procède de la multinationalité. La multinationalité présentée pour son auteur comme une répartition équilibrée entre les différentes nationalités. C'est une deuxième partie. Il s'agit donc de montrer au lendemain des événements de 1948 que la multinationalité n'est pas contradictoire avec l'unité et la stabilité politique. Donc, pour reprendre une phrase de l'auteur de cette carte, il dit, quand on la regarde, eh bien, on voit qu'aucune nationalité ne domine en nombre et en importance qu'elle ne puisse assujettir les autres. Évidemment, c'est un discours politique, ce n'est pas un discours, je dirais, réel. Et puis, il recourt aussi à tout un vocabulaire figuratif pour renforcer ce message multinational. Et il dit « Toutes les principales souches de la population européenne s'interpénètrent les unes les autres dans des couleurs nationales les plus variables et s'expriment dans un mélange coloré qui ne se rencontre nulle part ailleurs. » Donc, la carte, là, est un tableau. C'est une sorte de mise en scène des différentes nationalités et qui laisse penser à celui qui la regarde qu'on ne peut pas les ordonner, pas plus qu'on ne peut classer les couleurs. Donc c'est une grande fresque colorée qui a des qualités esthétiques pour plaire à celui qui la regarde, mais c'est aussi une fiction, puisque ça va évoquer un ensemble diversifié, harmonieux, qui est à l'écart de la réalité des répressions politiques de cette période. Alors, cependant, comme pour les cartographes allemands, cette carte, elle est aussi, au fond, une réponse à un défi qui est posé par la représentation d'une diversité, qui ne doit pas être vue comme un obstacle. Chaque fois, on a une hétérogénéité, et il faut montrer qu'elle n'est pas un obstacle à l'unité politique. Ici, la réponse est évidemment différente, les procédés le sont aussi. On montre d'un côté l'équilibre des nationalités dans la monarchie, mais de l'autre, on va montrer en fait que c'est une coexistence entremêlée des nationalités sur le territoire qui compose des territoires mixtes qui sont rétifs évidemment au découpage politique, donc aux scissions que revendiquaient les mouvements nationaux. Donc on le voit dans ce grand souci de la représentation en détail des territoires. Ces cartes allemandes et autrichiennes, donc on voit qu'elles se distinguent par un projet politique distinct qui prend naissance dans le mouvement des nationalités, mais qui est différent, et elles vont aussi se distinguer par le critère de la nationalité. Pour les Allemands, comme je l'ai dit, ce critère, il est exclusivement dans la langue, dans cette tradition philosophique de Fichte à Humboldt. Alors que pour les auteurs autrichiens, la langue n'est qu'un élément de la nationalité et ce n'est pas un élément exclusif, d'où l'emploi assez fréquent, comme avec cette carte, du qualificatif d'ethnographique et non de linguistique pour désigner leur carte. Et on va voir en fait que cette divergence va persister et se retrouver dans la statistique qui sera produite par ces deux États dans les décennies suivantes. Bon, mais avant, je voudrais encore aborder quelques traits communs à ces productions cartographiques dans la mesure où elles constituent en fait le socle d'où vont apparaître les statistiques ethniques. Alors, on voit qu'il y a un trait distinctif de ces cartes des nationalités, c'est qu'elles représentent encore des territoires, territoires de nations, de nationalités, de minorités, mais en tout cas, elles ne représentent pas des populations. Donc, ce ne sont pas des cartes à proprement parler statistiques, quantitatives, telles qu'elles apparaîtront dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout durant l'entre-deux-guerres. Cette particularité, elle peut s'expliquer par l'insuffisance à cette date de données statistiques qui soient détaillées et surtout standardisées à l'échelle d'un État. Mais cela tient aussi, je dirais, à une définition de la carte et à la place qu'elle donne à deux autres composantes qui rentrent dans sa fabrication, donc justement les chiffres et puis aussi le texte. Revenons aux chiffres. Il y a des chiffres, les auteurs des cartes s'y réfèrent quand elles existent et les publient. Donc, il est publié dans des tableaux statistiques qui sont placés ou bien à côté des cartes ou bien dans un texte qui est associé à celle-ci. Mais ces chiffres, ils ont un statut, un peu le statut inverse, c'est-à-dire que plus tard, les cartes seront des illustrations, mais à ce moment-là, ils sont un peu une illustration. Ils viennent en information complémentaire à l'image de la carte. Ils ne constituent pas le matériau de cette carte. Et puis, il y a surtout un texte, et ça, c'est très important. Ces cartes étaient accompagnées d'un très long texte qui pouvait même être un ouvrage. Donc, je ne sais pas comment je peux revenir en arrière. Je voulais revenir avant. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Ça, c'est les... Voilà. Ça pouvait être un ouvrage, et que donc il y avait pratiquement tout le temps, il y avait une carte, il y avait un ouvrage. Et ces ouvrages, ils proposaient un récit qui rendait compte de l'histoire des nationalités qui étaient représentées sur les cartes, suivant une trame généalogique qui rapportait les nationalités, les peuples à des races ou les divisait en souches. C'était une sorte de récit d'ethnogénèse, un récit de migration des peuples et de leur mélange. Et il avait une fonction très particulière.
Il était la partie historique de la carte. Et on supposait que pour bien comprendre l'image qui était restituée dans un moment instantané, eh bien, il fallait aussi lire cette histoire des peuples. Donc il y avait comme ça un rapport de complémentarité entre carte et texte qui associait deux dimensions temporelles qui étaient passé et présent. Donc ce que l'on décrivait dans le présent conduisait en fait à travailler beaucoup plus sur le passé. À en rechercher, en fait, on s'intéressait à expliquer le présent par le passé. Et on va voir que c'est quelque chose qui va basculer beaucoup plus tard. Au contraire, le présent va être utilisé pour projeter, au contraire, c'est l'évolution des nationalités. Donc un rapport qui renvoyait à cette tradition savante dont j'ai parlé, celle des sciences de l'État, qui s'était constituée au XVIIIe siècle et qui restait, dans cette première moitié du XIXe siècle, encore un schéma d'organisation des savoirs sur l'État. Mais cette tradition va être mise en cause dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle va être mise en cause sous deux grandes catégories de changements. D'une part, des changements dans les mondes administratifs et savants qui conduisent à définir la statistique comme un savoir strictement quantitatif et à la rattacher à l'administration avec l'essor des bureaux de statistiques qui seront responsables de ces grandes opérations qui sont les recensements de la population. Et puis, elle va changer sous l'effet de transformations politiques. À cette période romantico-patriotique des années 48, de la première moitié du XIXe siècle, succède celle de l'affirmation des États nationaux comme États de puissance dans lesquels les questions de population deviennent des enjeux de pouvoir, les populations des objets de politique spécifiques. Et dans ce nouveau contexte, la nationalité devient un fait de population et les statistiques de population ont une signification centrale quand elles les décrivent. Donc c'est cette seconde période qui voit à proprement parler se mettre en place ce que l'on appelle, ou ce que j'appelle, la statistique ethnique. Et maintenant, je vais vous la retracer à partir d'un cas qui a vraiment cette antériorité, c'est l'État prussien et qui fut le premier à enregistrer la nationalité ethnique dans des recensements, si bien qu'on peut y voir, ou en tout cas se demander, s'il n'y a pas là une matrice des statistiques ethniques qui ont été développées par la suite dans les autres États. Je vais revenir en arrière. J'ai dit, donc, deuxième partie, fin 19e, début 20e, la nationalité comme fait de population. J'ai dit qu'il existait des chiffres et que les gens qui faisaient des cartes pouvaient les utiliser, même si ces statistiques ne constituaient pas le matériel principal de ces cartes. D'où venaient ces chiffres? Pourquoi étaient-ils produits à cette date en Europe centrale? En Prusse, eh bien, il faut revenir en fait, à la période du Congrès de Vienne en 1815 qui attribue à l'État prussien, dans des confins orientaux, des régions où la part de la population allemande était mise en balance pour un tiers, si ce n'est les deux tiers, par la présence de minorités, la plus importante d'entre elles étant polonaise. Et dans ces territoires, dans une logique qui est d'abord administrative, dans des registres de population, on fait mention de la langue des habitants. Ce sont des registres qui sont tenus à ce moment-là par les autorités locales et qui disposent d'une grande latitude dans le choix des enregistrements qu'elles veulent consigner. Et donc on trouve des rubriques et qui indiquent combien d'habitants sont capables de parler allemand, combien ne peuvent pas le parler, combien parlent seulement la langue polonaise. Donc ce sont des mentions locales qui répondent à des besoins administratifs locaux. Quand il s'agit de fixer la langue dans des espaces particuliers, c'est la langue à l'église et la langue à l'école. Mais très vite, à ces motifs administratifs locaux vont se superposer les exigences centralisatrices de l'État prussien, qui se renforce et va imposer l'allemand comme langue officielle. Donc on se retrouve là dans un schéma classique, un peu comme la France, avec le français. Et les relevés, donc, sur la langue des habitants, vont servir à rythmer les étapes d'une unification linguistique qui devient le corollaire, désormais perçu comme indissociable, d'une unification politique, du renforcement d'un État. Et c'est cette vue étatique qui va impulser, à partir des années 1860, l'essor des statistiques ethniques. Le moteur de cette production, comme vous le savez certainement, fut une opération de grande ampleur. C'est le recensement de la population. Au XIXe siècle, dans les États allemands, en Prusse, son histoire suit l'évolution de la plupart des États européens. Il est réalisé par une administration particulière, qu'on appelle aujourd'hui l'Office de statistique ou l'Institut de statistique, et qui s'appelle à cette époque le Bureau de statistique. En Prusse, il a été créé assez tôt, en 1805, mais les recensements se développent tardivement, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils vont alors prendre le relais des enregistrements locaux de la population et du même coup, des relevés sur la langue et leur donner une ampleur qu'ils n'avaient pas eue jusque-là. Deux dénombrements, encore succincts, en 1858-61, donnent ainsi les premières statistiques de la population prussienne distinguées selon la langue. Et là, c'est toujours intéressant, c'est qu'on retrouve ce critère linguistique à la base de l'appartenance nationale. Mais cette fois-ci, il n'y a qu'une catégorie unique qui est retenue, c'est la langue familiale qui est alors définie comme la langue habituellement parlée dans la famille. Alors, je ne sais pas. Pourquoi ? Voilà. Alors que les recensements donc, sont des opérations rodées qui sont reconduites de manière régulière, 1870, 80, etc., tous les 10 ans, l'enregistrement des caractères nationaux est d'abord interrompu, et pendant 30 ans, jusqu'en 1890. C'est assez intéressant parce que cette période, elle correspond à la création du Reich, donc à l'unification allemande, dans l'Empire allemand, qui est sous la direction de Bismarck, et qui répond aux revendications des mouvements nationaux, notamment le mouvement national polonais, mais aussi danois, par une politique très restrictive sur réduisant le droit des minorités, dite du Kulturkampf. Et à ce moment-là, il n'y a pas de statistiques. Donc on se retrouve aussi dans un schéma qu'on connaît, au fond aussi pour la France, c'est-à-dire un État qui met en œuvre une politique d'assimilation dure, mais sans chiffres. En 1890, donc changement de régime, Bismarck part, et la nationalité est cette fois bien enregistrée dans les recensements. Et elle ne cessera pas de l'être à tous les recensements successifs, 1890, 1900, 1905, 1910, et ensuite durant l'entre-deux-guerres, et ensuite sous le régime nazi. Très caractéristique de ces statistiques, on retrouve toujours le même critère de la nationalité, c'est la langue. Mais cette fois, il y a un critère exclusif et qui ne changera pas, c'est la langue maternelle, la Muttersprache. En fait, ça changera uniquement sous le régime nazi avec le recensement de 1939. Donc on a une permanence remarquable du critère linguistique qui s'inscrit dans une tradition, que j'ai dit un peu philosophico-culturelle, mais qui doit aussi, à ce moment-là, sa stabilité à une autre cause, à une autre source. Un travail de thématisation conceptuelle et méthodologique qui est réalisé dans ces mêmes années 1860 par un statisticien prussien qui fut considéré un peu comme le fondateur de la statistique ethnique. Et donc maintenant, je vais décrire assez brièvement comment, avant de passer à ces enregistrements de la nationalité, comment est-ce qu'il a thématisé ce thème de la statistique, de la nationalité dans la statistique ? Donc ce statisticien, il s'appelle Richard Buck. Donc avant de parler de son livre, donc il y a ce trait en fait particulier à l'espace allemand, c'est que toutes les représentations, comme on le voit, toutes les données se rapporte toujours à des caractères linguistiques quand elle parle de nation ou de nationalité. Il y a donc ce que j'appellerais une équivalence entre langue et nationalité et qui fonctionne un peu comme un présupposé. Que ce soit des autorités locales, des cartographes privés ou des statisticiens publics, ils font tous cette équivalence. Mais on ne trouve jamais, nulle part, explicité par ces praticiens, le lien avec la nationalité. Pourquoi la langue est-elle le critère de la nationalité pour eux ? Et on a l'impression, au fond, que ce sont les usages qui vont sans arrêt établir et pérenniser cette équivalence. À partir des années 1860, donc, cet intérêt pour la statistique des nationalités s'affirme, notamment avec cette apparition de la politique de puissance des États nationaux, la création du Reich, et puis en retour, une consolidation des mouvements nationaux, des nationalismes sans État, pour les dire vite. Alors, à première vue, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose dans le registre enquêté, c'est-à-dire que l'on dénombre, on relève toujours des langues. Mais on va voir que ça va infléchir significativement l'interprétation que l'on va donner à ces résultats, à ces statistiques. D'un intérêt au départ, comme on l'a vu, qui était d'abord limité à la diffusion de la langue d'État, un intérêt étatique, la consolidation de l'État, sa force, on va progressivement se diriger vers un autre intérêt qui est celui de connaître la composition ethnique de la population. On va s'intéresser à travers ces données aux origines de la population. Et c'est donc un statisticien prussien de ce bureau de statistiques, dont vous voyez ici le nom, Richard Boeck, qui va thématiser dans des écrits ce rapport entre langue et nationalité, et à partir de ce postulat, établir les bases d'une statistique de nationalité qui sera reprise non seulement par tous les recensements allemands, mais également à l'échelle internationale, comme par les recensements russes. Alors, le point important à retenir de son travail de conceptualisation, si on peut dire, c'est que, c'est que ce n'est pas simplement un travail méthodologique, un procédé technique qu'il va mettre au point, c'est-à-dire comment bien relever, enregistrer la nationalité ou l'ethnicité dans un recensement, c'est qu'il va proposer en même temps une autre vision, une vision démographique de la nationalité qui était alors étrangère aux usages des administrations locales et même aux approches étatiques de cette question des nationalités. Il part de toujours de ce postulat selon lequel la nationalité d'un individu s'exprime d'abord dans la langue, puisque c'est par la langue que passe l'expérience et l'apprentissage du monde. Elle est donc, dit-il, la forme qui exprime le mieux l'être national qui réside dans l'individu. C'est ça qui est aussi la grande différence. Et qui va lier les individus, les membres d'une même nation, alors dans une communauté spirituelle. Ainsi, évidemment, à partir de cette définition, et il va considérer, comme ses contemporains allemands, que des formes d'affiliation à l'État et la citoyenneté, comme c'est le cas à ce moment-là en France, ne peuvent en aucun cas déterminer la nationalité. Et évidemment, on est dans ce siècle des nationalismes, et il va s'en prendre à cette définition française. Il va défendre néanmoins pas n'importe quel relevé sur la langue. Il va défendre ce critère exclusif de la langue maternelle, qu'il appelle aussi langue nationale, Volkssprache, pour établir ses statistiques. Et il va défendre aussi le recensement comme le seul moyen pour pouvoir la relever auprès de chaque individu. Et il insiste bien, on ne relève pas. Donc il ne s'agit plus du caractère d'un territoire, mais pas plus d'un caractère familial, c'est un caractère individuel. Et pour défendre ce critère, il va donc montrer qu'il possède des propriétés supérieures aux autres. Et justement, cette propriété, c'est de montrer qu'il va permettre d'articuler cette échelle individuelle et collective de l'appartenance nationale, le recensement étant quelque part la machine qui permet cette transformation, cette fabrication. Alors, parmi les propriétés de ce critère linguistique, eh bien, il soutenait qu'une question sur la langue permet toujours d'obtenir des déclarations claires à l'échelle des individus, parce que chacun sait quelle langue il parle. Et évidemment, à cette époque, ça permet de répondre au défi qui est posé aux mouvements nationaux. Qu'est-ce que veulent montrer les mouvements nationaux ? Eh bien, que l'appartenance nationale, elle est exclusive, elle est sans ambivalence, elle est durable, et non pas qu'elle est floue, qu'elle est labile, qu'elle est instable, qu'elle est multiple, voire inconnue, comme c'était dans la réalité. Donc des déclarations claires à l'échelle individuelle, et quand on va les agréger à l'échelle d'une population, eh bien elles vont mettre en évidence des différenciations, des délimitations nettes dans l'espace, dans les territoires, des frontières. Elles vont permettre de connaître des groupes nationaux. Où sont les Danois, où sont les Polonais, où sont les Allemands dans l'espace, dans la population. Et de les chiffrer, d'en donner le chiffre absolu, le chiffre relatif. Ça va le conduire à rejeter deux autres critères qui étaient alors discutés, cette moitié du XIXe siècle. D'abord, les traits morphologiques, qui relevaient de cette tradition savante, qui était aussi florissante, l'anthropométrie. L'anthropométrie, pour lui, selon lui, eh bien c'était des caractères qui, justement, étaient sujets à trop de variabilité. On avait des groupes trop variables, et donc on ne pouvait pas bien délimiter les groupes nationaux. Mais il va rejeter aussi l'auto-assignation, c'est-à-dire une définition dite subjective de la nationalité qui consistait à poser une question directe sur la nationalité. Il pressentait qu'avec une telle question, on retrouverait des doutes, si ce n'est des ignorances des individus, ou bien qu'on relèverait des opinions, des sentiments, et donc que la nationalité serait choisie. Alors que pour lui, et c'est vraiment commun à tous ces auteurs allemands, Eh bien, la nationalité, elle est un caractère culturel ou spirituel, comme il dit, mais elle est toujours transmise. Elle ne change pas, sauf exception. Alors, la force et l'habileté des écrits de ce statisticien, eh bien, c'est qu'il défendait une définition statistique, c'est-à-dire une définition qui était opératoire, une méthode de la nationalité, sans finalement passer par une définition, je dirais, essentialiste. Il ne dit pas ce que c'est la nation, une fois qu'il a posé cette équivalence, et il ne dit pas non plus ce que c'est la nation allemande. Alors, on peut dire que c'est là aussi ce qui fait la force de cet écrit et de sa postérité. Eh bien, dans ce contexte allemand, on a très tôt, nation, nationalité sont des concepts qui sont stabilisés et donc on n'a pas besoin de les réinterroger. Ce qui compte, c'est de les rendre opérationnels dans une pratique, dans une administration, dans une politique des populations. En revanche, en proposant ce que j'appelle cette formulation statistique de la nationalité, eh bien, il va aussi préparer sa transformation dans ce que j'ai appelé un fait de population. Finalement, il va la faire passer, comme on va le voir après, dans un autre ordre. Pour reprendre un peu les termes de Foucault, si vous connaissez ses écrits sur la population, ses cours, il va la faire passer dans le régime de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être appréhendée à travers, il y aura les statistiques de population, et parmi celles-ci, il y aura, comme il y a des statistiques professionnelles, des statistiques matrimoniales, il y aura les statistiques de population. Mais ça va aller plus loin. C'est qu'elle va être, elle va aussi converger avec l'apparition d'une nouvelle spécialité ou science, comme on la dénomme en allemand, science de population, et comme on la dénomme plutôt en France, la démographie. Et qu'est-ce que ça change de l'appréhender dans ce cadre démographique? Eh bien, pour la démographie, la population, ce n'est pas simplement une grandeur, ce n'est pas simplement un effectif. C'est déjà une globalité qui est définie par ses propres lois internes de reproduction et de fonctionnement, et que l'on connaît aujourd'hui tellement c'est inscrit dans le discours commun et qui nous semble évidente, eh bien, c'est quelque chose qui se reproduit par la natalité, par l'immigration par la mortalité. Et à cette date, cette science se constitue, et la jonction par Beuck, qui est en fait statisticien et démographe, va se faire à travers, au fait, son approche avec cette question de la nationalité. Donc, avant de vous donner un exemple de cette transformation, donc de cette analyse démographique de des statistiques ethniques, je vais quand même revenir sur la source de ces calculs démographiques, qui sont donc ces fameuses statistiques ethniques qui sont produites, notamment à partir du recensement de 1890, par les recensements. Alors, il est toujours difficile, comme vous le savez, de reconstituer le processus de mise en place d'une opération administrative. Et le recensement est une opération administrative. Et il n'y a pas beaucoup de documents qui permettent de travailler justement sur cette mise en place. On dispose le plus souvent, en fait, d'une documentation imprimée, qui est heureusement bien fournie et qui est composée donc par des volumes, des recensements, qui sont les résultats, mais qui donnent aussi toute une méthodologie donc, sur l'enquête. Et puis, il y a aussi des articles qui paraissent dans des revues, et notamment les revues statistiques de ces bureaux, comme aujourd'hui, qui exploitent et donnent une analyse de ces résultats. Donc, en s'appuyant sur ces sources imprimées, on peut quand même interroger cette statistique ethnique sur sa production selon, je dirais, trois questions. D'abord, comment est-ce que étaient collectées ces données? J'ai parlé de langue maternelle, mais pas plus. Bien comme on le sait, parce que là aussi on est toujours dans les évidences, ces données, elles étaient recueillies par un questionnaire. Et je dis on est des évidences, mais à cette époque c'est nouveau, puisque avant, jusqu'à la moitié du 19e siècle, ces données sont consignées dans des registres des populations. On revient aujourd'hui à parler de fichiers, mais ce sont deux modes d'enregistrement totalement différents. Le fichier, c'est un employé qui va consigner, alors qu'avec le recensement et le questionnaire, on est dans un mode de la déclaration, de l'auto-déclaration. Enfin, on se dirige en principe. Donc, au moyen du questionnaire. Et donc, ce questionnaire, dont vous voyez ici un exemple, un modèle, eh bien, il pose une question extrêmement succincte. C'est cette question sur la langue maternelle. Elle n'est même pas posée, c'est une mention, langue maternelle. Et puis ensuite, il y a une liste qui est ouverte avec plusieurs options, allemand, lituanien, etc. Et on demande à l'individu ou à l'enquêteur de souligner les réponses qui concernent la personne enquêtée. Il y a une petite instruction, comme toujours avec les recensements, et qui donne cette définition sur la langue maternelle. Chacun possède une langue maternelle dans laquelle il parle couramment et dans laquelle il pense. Cette instruction donne aussi une précision, qui est intéressante, on verra pour la suite. Elle signale qu'il peut y avoir des cas de bilinguisme, de la manière suivante. Quelques personnes possèdent deux langues maternelles. Il s'agit dans ce cas de personnes qui descendent de parents avec des langues maternelles différentes. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette formulation, elle est employée à tous les recensements suivants, recensement prussien et du Reich, et également durant l'entre-deux-guerres. On trouve donc mis en place très tôt une formule, une matrice même, qui sera à la base donc d'une stabilité, d'une régularité remarquable de l'enregistrement et donc de la production de la statistique ethnique. Deuxième question, comment se déroulait dans la réalité la conduite de ce recensement? Parce que là, bon, c'est le questionnaire, c'est le principe. Qu'en était-il? Cette question sur la langue maternelle, elle était censée régler des problèmes pratiques posés par la recherche de la nationalité des individus. Qu'en fut-il? Donc, d'une manière générale, on sait que dans aucun État, le recensement, hein, et ça déjà au XVIIIe siècle, qui était une opération officielle, qui était une opération régalienne, ne se déroulait sans problème auprès des populations. Longtemps, il fut, et à juste titre, suspecté parce qu'il servait à des fins fiscales, lever l'impôt, et aussi militaires, lever des soldats. Quand furent introduites donc des questions sur la nationalité ou la religion, eh bien, elles furent aussi, par des populations, perçues comme une intervention des autorités, donc une intervention suspectée. Et pour prendre l'exemple le plus frappant, en Russie, au cours du recensement de 1897, eh bien, dans certaines régions, il y eut vraiment des révoltes, des soulèvements des populations contre le recensement, parce qu'elles pensaient que les réponses serviraient, comme autrefois, à des campagnes de conversion forcée. Alors, on ne dispose pas toujours de la documentation sur ces manifestations, ces soulèvements, ces résistances, évidemment. Ce sont des rapports de police, souvent secrets. Mais on a quand même des sources fragmentaires qui permettent évidemment, qui témoignent évidemment de problèmes rencontrés avec ces questions dans les régions où se trouvaient les minorités. Et c'est le cas aussi pour la Prusse. On sait qu'il y a eu des résistances politiques, notamment dans les régions où il y avait des Polonais qui ont appelé au boycott des questions. On sait qu'il y a eu des problèmes évidemment de compréhension à cette langue maternelle qu'on pensait si transparente. Il y a des gens qui répondaient « pays de naissance » ou qui pensaient qu'au contraire, face à des autorités, il fallait déclarer la langue officielle et qui faisaient un choix. Il y avait évidemment des problèmes de confusion, de départage entre tous les dialectes et les parlés locaux, parce que la distinction qui était faite était une distinction, je dirais, savante entre langue et dialecte, mais dans les populations, elle n'était pas forcément opératoire, surtout en plus si l'analphabétisme était élevé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu apprentissage d'une langue écrite par l'école. Et puis à ces problèmes du côté des populations, il y avait aussi des désaccords, et c'est ça qui est intéressant, du côté des autorités locales où vivaient les minorités. Ces autorités locales, eh bien, elles s'intéressaient moins à la question de la langue maternelle, c'est-à-dire qu'elles s'intéressaient moins à la composition ethnique des populations qu'elles administraient, qu'à des situations de fait, et donc à cette situation, à connaître l'efficacité de politiques, qui étaient évidemment restrictives, politiques scolaires, politiques linguistiques, qu'elles appliquaient et qui étaient le vecteur d'une politique d'assimilation. Et donc ces autorités, eh bien, c'est toujours la connaissance de l'allemand comme langue d'État qui était prioritaire pour elles et pas la langue maternelle comme langue d'origine. Et ça, c'est une scission qui est absolument intéressante. Et donc à leur demande, plusieurs fois réitérée auprès du Bureau de statistiques et du ministère de l'Intérieur, eh bien, elles réussirent à faire introduire une autre question à partir du 1905, une question supplémentaire sur la compréhension de l'allemand. Et quand les gens disaient que l'allemand n'était pas leur langue maternelle, on leur demandait si elles le connaissaient et de déclarer quelle était cette autre langue. Troisième question que l'on peut poser à la production de ces statistiques, comment était-elle alors exploitée? Comment était-elle surtout analysée et commentée par les auteurs qui publiaient les résultats? Alors, de ce point de vue, il faut encore distinguer ces deux périodes. Il faut toujours distinguer cette première période des années 1850-60, qui est celle du renforcement de l'État prussien comme État allemand et qui succède au moment 1848. L'enjeu de la construction d'un État national allemand, qui est au cœur des revendications des patriotes, est alors repris par l'État. Mais il n'est plus évidemment l'expression d'une émancipation populaire, d'une souveraineté du peuple, mais il devient, réapproprié par l'État, en fait, quelque chose qui va être la force de l'État, sa légitimité. C'est-à-dire, sa légitimité passe par cette nationalisation, c'est l'État national. Et par conséquent, cette question des nationalités, elle devient une question de l'État. Et les premières publications qui paraissent de ces statistiques, donc qui paraissent dans ces années 1850-60, donc sont assez éloquentes dans leurs conclusions. Je les cite pour pouvoir après les mettre, les contraster avec celles des années 1890 et puis du XXe siècle, sont, pour vous donner un exemple. Dans un article, un statisticien, donc il conclut à partir de ces distributions, dans aucun des plus grands États européens, la langue qui est utilisée dans les affaires publiques devant les autorités les plus élevées est la langue maternelle de tous les habitants. Donc, il y a une langue d'État, d'abord. Mais l'État prussien n'est pas seulement allemand par la grande majorité de ses habitants, ce qu'il constate par ses chiffres, mais aussi par son gouvernement, qui est fondamentalement allemand. Alors, cette phrase, cette insistance sur un État national allemand, ici, prend encore son sens dans un contexte géopolitique qui est particulier, avant l'unification allemande, avant le Reich. C'est bien la revendication de la Prusse qui va se représenter comme le grand État allemand dans un espace où jusque-là, c'est l'Autriche, en fait, qui a la conduite de la Confédération. Et on sait à quoi ça va conduire. Ça va conduire à la défaite de l'Autriche, à Sadova, au Reich, etc. Et la deuxième période, donc, elle est complètement distincte. La deuxième période, à partir de 1870, qui est marquée par l'avènement du Reich, se démarque alors, non pas par, je dirais, une nationalisation de l'État, mais par une germanisation, une politique de germanisation entreprise par cet État de la population. Et donc, on va le voir, les données qui sont issues des recensements, données évidemment de plus en plus nombreuses et détaillées, vont donner lieu donc à des analyses qui montrent les nouveaux enjeux à la fois politiques et idéologiques autour des nationalités à partir de 1870 et notamment 1890. Donc, parmi ces nouveaux enjeux, j'en ai déjà cité un à propos des écrits de Boeck, eh bien, c'est connaître la composition nationale, la composition ethnique d'une population, connaître son origine ethnique. Et c'est une nouvelle préoccupation. Alors, elle apparaît très clairement dans les articles qui paraissent et qui exploitent donc ces premières statistiques des nationalités. En 1890, on a un article qui s'intitule « La population prussienne selon sa langue maternelle et son origine ». Et dans cet article, l'auteur dit que la connaissance, je le cite, des rapports linguistiques est le meilleur moyen pour arriver à une compréhension de l'origine de la population. Cette préoccupation pour la composition ethnique de la population, eh bien, se ressort aussi dans des tableaux qui sont donc de plus en plus nombreux et qui, au chiffre absolu des nationalités, vont ajouter aussi des formulations en termes de pourcentage, mais aussi en termes de rapport, comme une sorte de face-à-face, donc prenant toujours des territoires, entre des nationalités. Donc on dit, là, il y a 9 dixièmes d'Allemands, 1 dixième de Lituaniens, 3 cinquièmes de Polonais, etc. Et tableaux qui se prêtent à des lectures évidemment spatiales en termes d'avancée ou de recul. Et donc, on a quelque chose, au fond, qui est une perception dynamique et ce qui est évidemment en rupture avec cette représentation statique des années 1840 que je vous avais montré justement avec les cartes. Et là, on ne voit pas justement de cartes. Donc, une perception dynamique du rapport entre les nationalités et qui est associée à cet intérêt croissant donc pour aussi une reproduction des nationalités et une reproduction donc différentielle. Et c'est là que l'on va voir donc se déployer cette approche démographique dont je vous ai parlé et qui va inviter les statisticiens de plus en plus à mesurer la croissance, l'accroissement des différentes nationalités, ce qui leur est évidemment facilité puisque les recensements sont reconduits, donc on va comparer les chiffres, mais aussi pas simplement une mesure d'un effectif, pas simplement une mesure d'une variation, mais c'est là qu'on est dans la démographie, une recherche des causes de ces évolutions à partir de ces facteurs que sont natalité, mortalité et migration. Donc, quelles sont les causes de ces accroissements différentiels? Et on le trouve d'ailleurs très tôt aussi chez Richard Boeck, qui signalait dans ses écrits, je le cite, « La statistique montre que sous des conditions naturelles à peu près égales, les nations vivant ensemble montrent des différences essentielles dans les rapports de la mortalité et de la fécondité. Pas moins que la perpétuation d'une nation, sa reproduction, est aussi d'un véritable intérêt général, et c'est dans cet intérêt que doit être entreprise la recherche des causes d'où proviennent les différences de la fécondité et de la mortalité. » Et Beuck, d'ailleurs, encourageait non seulement le relevé de la langue maternelle dans les recensements, mais aussi dans les registres des états civils, ce qui sera établi un peu plus tard. Et donc, cette analyse différentielle qu'il préconise, elle devient donc prévalente à partir des années du début du XXe siècle, surtout des années 1910, et puis, évidemment, dans l'entre-deux-guerres avec l'approche eugénique des populations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve donc les prémices dans cette décennie, première décennie du XXe siècle, comme je vais vous le montrer, l'illustrer, à partir des articles d'un autre statisticien qui va exploiter donc des recensements plus tardifs. Je vous demande des... Alors, ce statisticien, qui s'appelle Max Brosig, il va exploiter à ce moment-là, donc, maintenant, ces deux sources disponibles sur la population. Donc, c'est sur ce que l'on appelle donc, le registre civil, c'est le mouvement de la population, et donc qui enregistre évidemment la natalité, et à partir des actes d'état civil, et qui, à partir de 1911, va aussi indiquer, dans l'Allemagne, en Prusse surtout, quelle est la nationalité donc, des mères. Et ce qui est là aussi intéressant, c'est que cette nationalité, ça passe encore par la langue maternelle. Donc on a en permanence une cohérence dans les critères qui sont utilisés chaque fois que l'on enregistre l'ethnicité des populations. Et puis la deuxième source, ben c'est celle qui décrit l'état d'une population, et c'est le recensement. Et donc il va rapprocher ces deux sources, les naissances en 1911 et l'état de la population en 1910. Ce recensement d'ailleurs va interroger les femmes aussi sur le nombre d'enfants qu'elles ont eus. Donc on a là une multiplicité en fait, de données qui se prêtent à ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des calculs de taux de fécondité, mais des taux de fécondité différentiels selon la nationalité de la mère, et qui vont évidemment permettre une analyse de la reproduction différentielle des nationalités. Il fait paraître donc ces résultats de ces calculs minutieux, dans des articles qui ont comme point de départ, donc là c'est très explicite, hein, il le dit, la question importante à laquelle il veut répondre avec ses calculs, eh ben de savoir si ce sont les Allemands ou les Polonais qui possèdent la croissance naturelle la plus forte. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que l'on voit en fait l'autre national, l'autre ethnique, eh bien il est à ce moment-là, alors qu'il y a d'autres minorités, parfaitement, je dirais, il est identifié sous cette figure du Polonais. Et que va-t-il en déduire ? Ben, il va en déduire que les fécondités des Polonaises est toujours plus élevée. Donc, préoccupation à cette époque. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est qu'il va, une fois qu'il en a déduit que les Polonaises ont une fécondité plus élevée que les Allemandes, il va en tirer des considérations et des conclusions qui sont intéressantes parce qu'elles vont lier dans un nouveau contexte politique ces résultats avec les enjeux idéologiques, ces nouveaux enjeux idéologiques autour des nationalités. Alors par exemple, pour éclairer, donc, il veut éclairer, expliquer cette différence, donc il va chercher une cause et il va affiner ses calculs. Et il va montrer cette chose que l'on sait bien que dans les campagnes, les familles sont toujours plus nombreuses, la natalité est plus forte. Et évidemment, la population rurale, la population paysanne, donc dans ces régions de l'Est orientale, elle est majoritairement polonaise. D'où, évidemment, une fécondité différentielle. Mais au lieu de dire, finalement, c'est le peuplement rural-urbain qui est à la cause, il va en fait, en tirer une conclusion politique. Il va le dire, eh bien, pour cette raison, il faut défendre la politique. Donc, il va s'inscrire dans un registre du politique. La politique, à cette époque, elle est très précise. Il y a une politique de peuplement allemand, une politique de colonisation. D'ailleurs, je vous renvoie, il y a toujours eu un texte de Max Weber à ce sujet, qui est menée par l'État dans ces régions polonaises et qui consiste, en fait, très clairement, à s'approprier d'une manière ou d'une autre, à confisquer. Ils ont confisqué des terres polonaises pour les redistribuer à des tarifs préférentiels, à des familles allemandes, et les encourager à s'établir dans ces terres et, en fait, à les germaniser. Donc, on est dans un schéma, à l'époque, qui n'est pas complètement singulier, voilà, unique. Et évidemment, cette politique, il dit, eh bien, il faut la soutenir parce qu'elle va inverser cette tendance démographique en faveur de la fécondité allemande. C'est un moyen de redresser la fécondité des Allemands. Puis réciproquement, eh bien, il va considérer que l'émigration des Polonais, donc c'est une émigration à ce moment-là qui se produit vers les régions industrielles, donc de l'Ouest, de la Ruhr, de la Westphalie, eh bien, c'est un facteur qui permet de rééquilibrer la démographie de ces territoires. Donc on est dans un schéma de politique de population et on voit comment, au fond, il passe de choses de calcul qui sont très savants, très minutieux, à quelque chose qui est déjà un raisonnement politique. Et puis, il invoque aussi d'autres considérations qu'on ne trouve pas chez les précédents auteurs et qui est bien là aussi, je dirais, les prémides ou les préludes aux interprétations biologiques, vitalistes de la fécondité qui triomphent durant l'entre-deux-guerres avec la pensée eugéniste. Il écrit, je le cite, « Eh bien, la question des autres causes des différences d'accroissement entre Allemands et Polonais ne peut pas recevoir de réponse définitive au moyen de la statistique, c'est intéressant, car en dernier ressort, ce sont probablement les caractéristiques raciales qui jouent. » Donc on voit qu'on se situe dans un contexte rhétorique, discursif, complètement différent autour de ces statistiques qui sont tout le temps des statistiques produites à partir de la langue. Alors pour terminer avec cet exemple prussien, il y a quand même une question que j'ai tout à l'heure, j'ai évoqué que les administrateurs locaux, donc à l'échelle régionale, il y avait toujours un intérêt pour la connaissance de l'allemand, donc quelque chose qui aurait été un point de vue plus étatique, un point de vue plus assimilationniste, alors que là, avec la fécondité, on est déjà dans la différenciation, surtout que quand elle est à l'appui, enfin, ou associée à une politique de population, donc de peuplement. Donc, il y a quand même cet intérêt pour la connaissance de l'allemand qui persiste, puisqu'il a conduit à poser, en fait, une question supplémentaire. Alors, qu'en est-il ? Comment exploiter cette question ? Est-ce que cette préoccupation est devenue mineure ? Ou est-ce qu'elle coexiste avec cette autre préoccupation, je dirais, plus démographique ? Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que cet intérêt, eh bien, il est reformulé aussi dans des termes, je dirais, plus ethniques, plus en termes d'origine, pour dire bref. Il s'agit moins, à partir de ces questions, d'intégrer donc, des étrangers, des minorités dans un État, mais de les intégrer dans une nation et de saisir cette intégration comme un processus qui serait moins, à ce moment-là, d'assimilation, où on ne les voit plus, que de germanisation, ou alors on ne les voit plus, mais on voit des Allemands en plus. Et c'est ce terme, d'ailleurs, qui apparaît de préférence pour parler donc de ce rapport, de ce passage dans une autre nationalité, face à celui, évidemment, concurrent de polonisation. Et donc, la statistique, elle va justement servir aussi pour mesurer concrètement, c'est aussi une espèce de contradiction que à la fois on ait ce discours allemand exclusif, presque biologique, et en même temps toujours ce discours, cette préoccupation d'assimilation. Et les deux coexistent. Et donc, on mesure ce passage dans une autre nationalité à partir, en fait, de deux autres catégories qui sont produites à partir de ces statistiques. Une dont j'ai parlé, qui est celle des bilingues. Bien, les bilingues, si au départ, c'est parce qu'on pense qu'il y a des individus de couples mixtes et qu'il est intéressant de les saisir, hein, le statisticien est quelqu'un qui est toujours dans le détail, hein, la recherche de la précision. Donc, ces bilingues, ils vont être pris dans un sens beaucoup plus large et pour pouvoir saisir tous les gens qui parlent à peu près couramment deux langues. Et évidemment, les gens qui ont appris une deuxième langue par une forme d'intégration. Et donc, on trouve dans un article qui analyse ces résultats, donc, je ne sais pas si j'ai... Non, c'est pas... peut-être avant... Non, c'est dommage. un des auteurs qui analyse donc en fait ces statistiques du bilinguisme dans les parties où il y a justement les émigrés polonais, il conclut ainsi « L'augmentation significative des personnes parlant allemand et polonais en Westphalie et en Rhénanie semble indiquer un processus de germanisation dans la mesure où il ne s'agit pas d'enfants de couples mixtes. » Donc là, on voit une utilisation nouvelle de la statistique des bilingues pour mesurer un processus de passage dans la nation allemande d'émigrés polonais dans une région industrielle. Et puis, il y a aussi, évidemment, une préoccupation, un intérêt, une attention qui est donnée à d'autres catégories. Évidemment, on parle allemand-polonais, mais il y a aussi des identités dites nationales faibles, des identités locales, des identités régionales, qui sont repérées, parfois d'ailleurs reconnues dans le recensement, à des fins surtout politiques, et qu'on voyait donc dans ces parlers... Dans ces catégories linguistiques qui étaient proposées, comme les cachoubes, les masures, les frisons, qui, évidemment, quand on ne connaît pas, paraissent exotiques et qui traduisent autant de parlers et d'identités locaux. Et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Eh bien, parce que selon qu'on les additionne avec tel ou tel grand groupe, on change évidemment les grands groupes, les grands rapports de force entre eux. Et donc, ces petits groupes intermédiaires, ces petites nations, comme disait aussi Marx, ils sont beaucoup disputés. Est-ce que les cachoubes sont un groupe à part ou est-ce que ce sont en fait des Polonais qui n'ont pas encore une conscience nationale polonaise? Et donc, on travaille beaucoup sur ces catégories. Donc, voilà l'état de cette statistique ethnique allemande à la veille de la Première Guerre mondiale. Et j'ai dit que, par son antériorité, par aussi sa régularité, on pourrait aussi la considérer comme une matrice pour l'Europe. Alors, pour y répondre, brièvement néanmoins, qu'en était-il à cette date dans les autres États et qu'en fut-il après la Première Guerre mondiale? Y a-t-il eu une postérité? Alors d'abord, dans les autres États, notamment en Europe centrale. Avant la Première Guerre mondiale, des États qui relèvent la nationalité, l'ethnicité, ils sont en fait peu nombreux. On a donc l'Allemagne, on a l'Autriche, dont j'ai parlé, il y a la Hongrie qui va avec l'Autriche, la Russie, et la Bulgarie, donc je connais moins. Il y a aussi, évidemment, mais ça, je parle donc d'un espace géographique quand même assez particulier, mais il y a évidemment ce qui se passe dans l'Empire ottoman et qui serait évidemment à un moment ou à un autre important à prendre en considération. Alors l'Autriche, au début de mon exposé, j'ai dit que ces cartes autrichiennes, elles étaient finalement différentes des cartes allemandes, pas simplement par un projet politique, mais qu'une des différences, c'est qu'elles, justement, elles ne donnaient pas la primauté à la langue. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différence, elle va persister, alors qu'au fond, de loin, c'est un espace, toujours cet espace germanique, qui nous paraît assez homogène. Il y a des recensements en Autriche, dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui se complexifient, et qui, là aussi, d'ailleurs, pour des motifs politiques, vont conduire plusieurs fois les autorités à reporter un relevé qui a trait à la nationalité. Et puis finalement, ce relevé a lieu en 1880, mais il ne porte pas sur la langue maternelle. Il porte sur ce qu'on appelle la langue d'usage, la Umgangssprache. Et les autorités le justifient, cette question, uniquement parce que c'est important pour les besoins de l'État, en fait toujours pour fixer des réglementations linguistiques. Mais, il précise, cette n'est pas du tout une question qui permet de connaître la nationalité. Évidemment, il y aura une protestation des minorités ou des nationalités qui ne sont pas forcément minoritaires, et notamment des Tchèques qui demanderont que soit relevée la langue maternelle. Mais en vain, la question ne changera pas et elle sera reconduite à tous les recensements autrichiens. Et c'est seulement dans l'entre-deux-guerres, donc dans le cadre d'un autre État, que cette langue d'usage sera abandonnée et laissera la place à la langue maternelle. Donc, comme je l'ai dit, c'est un choix politique, mais qui n'était pas non plus contradictoire avec la conception que les statisticiens autrichiens avaient de la nationalité. Ils avaient une approche, je dirais, plus ethnographique de la nationalité. En tout cas, on voulait dire par là qu'il n'y a pas un critère unique qui est dans la langue, mais que la nationalité, c'est une mesure synthétique qui va croiser une grande variété de caractères et de données qui sont issues d'autres sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils en arrivaient à dire que cette approche, elle n'était pas compatible forcément avec les exigences d'un recensement et que le recensement n'était pas forcément la meilleure opération pour connaître les minorités, la nationalité, les groupes nationaux dans une population. Et donc, ainsi, un des directeurs du bureau de statistiques viennois écrivait Et donc là, on mesure la différence à cette époque avec l'Allemagne. La nationalité n'est pas un moment qui autorise une recherche individuelle. Donc elle n'est pas dans l'individu. Elle ne peut être dérivée ni de l'individu, ni cherchée par celui-ci. Et par conséquent, elle ne peut pas être constatée par la voie du recensement. Donc une divergence importante encore à cette époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, à partir du compromis austro-hongrois, 1867, la Hongrie se dote de son propre institut de statistique et elle va entreprendre, dès 1880, elle aussi, des recensements décennaux. Mais elle va, elle, au contraire, imposer la langue maternelle. Et cette langue maternelle persistera comme critère, en tout cas, de la nationalité dans tous les recensements hongrois. Alors ici, c'est un choix qui est évidemment dicté par des considérations politiques qui sont assez claires. Bien, pour parvenir au chiffre le plus favorable du nombre de Hongrois, et le plus faible possible d'allemand, eh bien, la langue maternelle est préférable à la langue d'usage, puisque les Hongrois, dans les années qui précèdent, ont été soumis, suite à leur soulèvement, à une politique restrictive, une politique aussi, quelque part, de germanisation. Qu'en est-il en Russie et en URSS ? Alors là, c'est un exemple que j'évoque rapidement, mais je vous renvoie à des travaux de démographes et d'historiens français qui décrivent très bien l'histoire de cette statistique des nationalités russes et soviétiques, donc les travaux d'Alain Blum et surtout de Juliette Cadio, avec ce titre, Le laboratoire impérial, son livre qui est paru il y a 1 ou 2 ans. Et donc, elle montre en fait que cette statistique ethnique russe et puis soviétique, elle combine des éléments, au fond, je dirais, un peu de ces deux États, de ces deux modèles, du modèle prussien-allemand et du modèle autrichien. Quand il s'agit de représenter l'Empire, on retrouve une approche ethnographique qui est privilégiée, avec ce corollaire cartographique qui est présent en Autriche. Et les questions, d'ailleurs, ne sont pas traitées exclusivement par le bureau de statistiques. Ce n'est pas vraiment l'institution qui a le monopole. Il y a toujours un autre institut ethnographique qui deviendra ces fameux instituts des nationalités à l'époque soviétique et dont on verra une réplique, en fait, dans de nombreux États non européens après-guerre. En même temps, au XIXe siècle, l'État russe, et c'est là qu'il a une similitude avec l'État prussien, il poursuit une politique de russification des populations, notamment dans les périphéries occidentales, où il y a des revendications, encore, des Polonais. Et puis, à cette politique, il a aussi une vision hiérarchique des peuples, les peuples avec les petites nations, donc quels sont les peuples qui arriveront à une forme politique et ceux qui devront, en fait, être assimilés, et qui vont conduire les statisticiens russes à s'aligner sur les recommandations prussiennes autour, en faveur de la langue maternelle, comme critère de la nationalité dans les recensements. Et c'est bien le critère qui est employé dans le recensement de 1897, qui est le premier et le dernier grand recensement de l'Empire russe. Enfin, il faut signaler une particularité de cette statistique ethnique russe qui l'apparente là beaucoup plus à ce qu'on appellerait les États coloniaux et qui repose sur des distinctions statutaires, des distinctions de la population sur l'ordre, russe, non russe, citoyen, indigène, et qui, même après leur disparition juridique, vont continuer à structurer de manière très forte les assignations identitaires. Et c'est quelque chose que l'on ne trouve pas, en fait, en Allemagne ou en Autriche à cette époque. Alors, c'est un rapide aperçu, donc, tend à montrer, en fait, que malgré tout, la langue maternelle s'est imposée dans la plupart des États comme le critère de la nationalité dans les recensements. Mais si la Prusse fut en quelque sorte, par sa précocité, je dirais, le modèle, la matrice de cette statistique, ce critère a aussi acquis sa légitimité par le biais d'un autre canal, c'est celui des instances internationales de la statistique, et notamment le Congrès international de statistique et les recommandations qu'il faisait. Donc je vais y passer assez rapidement, mais il semble aussi intéressant à un autre point de vue. En effet, très tôt, les statisticiens s'étaient fédérés donc dans une instance internationale pour s'autonomiser de l'État, mais aussi pour standardiser leurs méthodes, adopter des classifications communes et faire des recommandations. Et ils ont discuté donc de la question du relevé de la nationalité. Il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de désaccords, puis ils parvinrent à cette recommandation en 1872 de la langue maternelle en par cette phrase, elle est le seul caractère ethnographique, donc ils utilisent quand même le terme ethnographique, que le recensement puisse rechercher, et puis en mettant en avant, là aussi, la qualité de ce critère. Chacun sait parfaitement indiquer la langue dont il se sert depuis son enfance pour penser et s'exprimer. Donc on voit que là aussi, eh bien, On voit que dans cet espace international, il y a des hésitations, il y a des débats, et que finalement, eh bien, la meilleure façon de clore toute discussion, tout désaccord, eh bien, c'est de mettre en avant, c'est typique des statisticiens, une qualité technique. Alors, pour dire assez vite, il y avait donc dans cette communauté internationale, c'était en quelque sorte, au fond, un peu aussi une communauté utopique, des désaccords et des hésitations, tout simplement même sur la faut-il relever ou non la nationalité dans les recensements ? C'est le cas des Autrichiens, qui pensent que le recensement n'est pas la meilleure façon de connaître la distribution des nationalités. Et on peut trouver, donc, on peut trouver comme ça quatre types de désaccords dans les délibérations entre les États. Il y a d'une part des désaccords sur la définition de la nationalité, ça c'est très clair, qui oppose plutôt les États et qui va, de manière idéale typique, donc, opposer les statisticiens français et les statisticiens prussiens. Et les Français vont dire très clairement, il n'y a pas besoin d'introduire une question sur la nationalité, une question supplémentaire, puisqu'elle est déjà posée à partir de la nationalité politique. Il n'y a pas question d'en introduire, donc il n'y a pas question d'en débattre. Bon, même si une partie des statisticiens ne souscrivait pas à la radicalité de cette décision, le choix néanmoins du critère, faut-il un seul critère ou plusieurs critères, continuait à diviser les statisticiens, notamment autrichiens, les Autrichiens vis-à-vis des Prussiens, mais aussi les Hongrois. Et c'est ainsi que l'on voit, on trouve un mémoire d'un statisticien hongrois qui est donc écrit à la demande de ce Congrès international de statistique pour savoir eh bien, comment est-ce que l'on peut relever la nationalité dans un recensement. Donc on voit qu'en fait, en 1874, eh bien, cette communauté, bien qu'elle fasse des recommandations techniques, elle n'est pas du tout certaine que l'on peut, à travers les recensements, saisir la nationalité. Et ce statisticien hongrois, qui s'appelle Kelleti, il va donner une réponse, justement, assez négative, et il va considérer que ben, si on veut connaître les nationalités, eh bien, il faut faire des enquêtes spéciales qui vont prendre une grande variété d'indices. Donc on s'inscrit beaucoup plus dans cette tradition ethnographique. Et pour le citer, voilà ce qu'il dit. Eh bien, pour obtenir les résultats désirés, il faudrait s'adresser individuellement à tous les chefs de famille pour leur demander leur origine, leur lieu de naissance, la langue parlée dans la famille, leur langue maternelle et celle qu'ils savent, prendre en considération leur descendance, les indices de race. Il faudrait enfin tenir exactement compte de tous ces renseignements, de toutes ces manifestations et aveux, et les notant dans les rubriques correspondances, en tirer ensuite, logiquement, le résultat qui s'exprimera par un mot, qui sera celui de la nationalité de l'individu. Donc, une enquête pratiquement irréalisable. Puis beaucoup de statisticiens savaient aussi que cette question, en fait, elle se prêtait sans cesse à des influences politiques. Ils savaient que la vue idéaliste des concepteurs, qui pensaient que la statistique pouvait objectiver la nationalité à partir de la langue maternelle, la saisir donc à l'écart des choix, à l'écart des interprétations et de l'environnement, était évidemment contredite par la réalité. La réalité des recensements, ben c'était quoi ? C'était les expériences qui étaient menées et qui révélaient en fait toute cette gamme de réactions dont j'ai déjà parlé et qui étaient imprévues de la part des populations enquêtées. Incompréhension de la question, non-réponse par crainte, refus, ignorance, etc., etc. Donc voilà où en est la situation à la Première Guerre mondiale. Administrativement, techniquement, quelque chose qui fonctionne en Prusse, dans le monde des statisticiens, dans une communauté qui se veut scientifique, beaucoup de débats et beaucoup de doutes. Que se passe-t-il, alors là, cette fois-ci, pendant l'entre-deux-guerres ? Donc c'est plutôt ma partie, je dirais, conclusive que je ne vais pas développer. Alors la Première Guerre mondiale, elle marque une coupure avec cette première période. Et on peut aussi considérer ce qui se passe après, au fond, comme le moment d'une seconde mise en place. Je dirais, c'est cette statistique des nationalités, elle devient une statistique des minorités. Mais il se produit aussi une recomposition, c'est ça qui est intéressant, à partir des éléments qui ont été consolidés dans ce long 19e siècle et que je vous ai décrit. Et ces éléments, en fait, ils sont donc d'abord portés par une continuité politique. En conséquence du triomphe du principe des nationalités, qui justifie la création des nouveaux États, qui sont issus du démembrement des empires centraux, eh bien, ces statistiques qui sont produites avant, eh bien, elles vont être utilisées malgré tout, parce qu'il y a ce précepte wilsonien, on va décider selon les faits. Et ces statistiques qui ont été recueillies par ces États que l'on démembre, eh bien, ce sont les seuls faits disponibles pour, en 1919, par exemple, à la conférence de Paris, eh bien, décider de la création de ces États, ou en tout cas en discuter, l'étendue de leur territoire, le tracé des frontières, les droits des minorités à protéger. Alors, c'est un exemple tout à fait frappant que je vous expose ici, à la conférence de Paris. Eh bien, la délégation polonaise arrive avec des documents, donc les experts arrivent avec des cartes, avec des tableaux, donc pour décider selon les faits. Hein. Et ce qui est frappant, eh bien, c'est que cette délégation polonaise, elle a un atlas statistique et géographique qui a été constitué par un géographe et statisticien qui s'appelle Eugeniusz Römer et qui présente des cartes de la Pologne, donc comme un État à constituer ou à reconstituer, qui est des cartes donc, et des chiffres qui sont produites uniquement avec les chiffres des États qui les dominaient, avec des statistiques prussiennes, des statistiques autrichiennes et des statistiques russes. Et donc, il y a véritablement une réappropriation de ces statistiques à des fins de revendication, donc à des fins qui sont contraires de celles que leur avaient données, en fait, initialement les statisticiens. Et donc, ça, c'est le type de document qui est utilisé par les diplomates dans les multiples débats qui sont faits à propos de la création des nouveaux États. Et donc, évidemment, ce qui est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ces usages diplomatiques qui sont postérieurs à ces États, elles vont donner quelque part une consécration, une reconnaissance postérieure à ces statistiques. Donc là, c'est encore un exemple de ces cartes qui sont constituées. En fait, je reviendrai après par. Néanmoins, il y a aussi une rupture. Et le changement principal, eh bien, ce sont ces nouveaux États qui vont l'introduire. C'est-à-dire qu'à peine créés, ils vont lancer un recensement de la population, qui est cette opération ultime de leur reconnaissance et de leur légitimation. Et comme vous le voyez, donc. Dès 1920, alors que, par exemple, en Pologne, il n'y a pas encore de tracé définitif de la frontière avec l'Union soviétique, qu'un premier recensement est lancé. Et évidemment, dans ces recensements, la question sur la nationalité a une place centrale. Et là, le changement est notable. Ce n'est plus la question sur la langue maternelle qui va être posée, mais c'est celle qui va s'y substituer ou qui lui est ajoutée. C'est cette fameuse question directe sur l'appartenance nationale qui avait été jusque-là rejetée. Et c'est notamment le cas en Pologne et en Tchécoslovaquie où on demande aux gens à quelle nation ils appartiennent. Je ne sais pas. Alors, comment expliquer ce changement ? Alors, il y a toujours une explication politique claire. Bien, ce sont des populations qui ont été soumises auparavant à des politiques linguistiques, des régimes dont elles dépendaient, et évidemment qui pouvaient craindre qu'une question sur la langue en 1920 eh bien, ne dénombre pas toute la population qui, selon elles, appartiennent à la nationalité qu'elles tentent de représenter. Donc, la langue maternelle, évidemment, eût été une question beaucoup moins avantageuse que de demander à quelle nationalité pensez-vous appartenir. Et il y a un contre-exemple, eh bien, c'est que les recensements qui ont lieu durant l'entre-deux-guerres en Hongrie, en Allemagne et en Autriche, eux, n'introduisent pas cette question directe. Ils continuent avec la question sur la langue maternelle. Mais aussi, pour qu'on substitue donc, ce critère que l'on dit subjectif, donc de l'autodéclaration, de l'auto-assignation de la nationalité, à un critère qui était quand même longtemps vanté, et en tout cas recommandé à l'échelle internationale, pour son objectivité, et évidemment, l'objectivité, c'est une des valeurs que revendiquent les statisticiens, pas de sens de neutralité, mais dans le sens de quelque chose qui est stable, et puis quelque chose qui va garantir, comme on disait, des réponses claires, donc qui va garantir des réponses, parce que finalement, la grande peur du statisticien, c'est de ne pas avoir de résultats, c'est des non-réponses. Il fallait quand même qu'il y ait un autre changement, et cette fois-ci, le changement, il vient évidemment dans l'environnement politique. Ce principe des nationalités qui est mis en avant en 1919, c'est plus du tout celui de 1848, c'est celui de l'autodétermination des peuples. Autrement dit, cette fois-ci, une nationalité choisie, enfin en principe, qui est choisie. Et le recensement est vu comme un procédé, en tout cas par ces nouveaux États, qui permet de recueillir des déclarations d'auto-affiliation et qui donne évidemment ce fondement à cette question subjective. Et donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le recensement se retrouve complémentaire ou côte à côte avec un autre procédé de consultation des populations, donc des procédés politiques, qui est le plébiscite. Si bien que l'on parle à cette époque d'un usage plébiscitaire du recensement. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui revient, pour faire un grand saut dans le temps, pour la période post-communiste dans les anciennes républiques soviétiques, où là aussi, changement de régime, nouveau recensement, je vous invite à lire le numéro de Critique internationale, et là aussi, c'est cet usage plébiscitaire qui est donné au recueil de la nationalité. Et puis, il y a aussi un autre facteur, proche, au fond, je dirais, qui est ouvert par cet usage plébiscitaire, qui peut expliquer, au fond, sa présence dans le recensement. C'est qu'à côté du droit des minorités, qui s'appuie pour être appliqué sur des statistiques ethniques, il y a aussi un champ d'application plus large et nouveau de ces statistiques ethniques, et qui est à des fins de représentation politique. Et cela apparaît d'autant plus que se met en place au lendemain de cette Première Guerre mondiale, en tout cas dans les années 20, dans la plupart des nouveaux régimes, des régimes de démocratie représentative. Comment définir le nombre de représentants des nationalités ou des minorités ? Comment circonscrire des questions électorales en fonction de la distribution des nationalités ? Bien, ce sont des questions et des utilisations nouvelles qui ouvrent alors la voie vers ce que je pourrais appeler, au fond, quelque chose de nouveau, une reconnaissance positive, comme on parle de discrimination positive des minorités, et qui fait d'ailleurs écho, à peu près à la même époque, si je ne me trompe pas, aux premières revendications aux États-Unis de l'affirmative action, d'ailleurs partent aussi des minorités qui viennent de l'Europe centrale. Et c'est là aussi une des grandes ambiguïtés de la statistique ethnique qui se constitue au cours de l'entre-deux-guerres et qui ne cessera pas, c'est qu'au fond, des chiffres qui seront recueillis à ce moment-là dans un esprit de reconnaissance et de représentation, eh bien, seront exploités 10, 20 ans après, dans les années 30, 40, par les dictatures, contre ces mêmes groupes, à des fins de transfert, de persécution et d'extermination. Alors, voilà, j'arrive à ma conclusion. Eh bien, pour conclure, j'aurais voulu reprendre la question de quel est l'apport, quelle est la spécificité d'une approche historique à la question des statistiques ethniques qui nous paraît si contemporaine. J'ai parlé d'un double apport, d'une part un décalage, et puis d'une part quelque chose, évidemment, qui est la longue durée. Alors juste, je vais les lister, et comme ça, on pourra en discuter. La longue durée, évidemment, elle plaide contre une vision aujourd'hui qui tend à lier la nationalité ethnique avec un contexte politique. Et elle montre en fait qu'il faut l'autonomiser du contexte politique. Elle émerge dans un contexte, mais elle est sans cesse retravaillée par de nouveaux contextes. Assimilation, droit des minorités, état national. Un autre trait que nous montre la longue durée, c'est qu'il y a eu toujours des enjeux, des désaccords et des débats. Et puis, un trait qui apparaît aussi, qui est lié au premier, c'est qu'on est en permanence dans des mondes où il y a des usages et des interprétations qui donnent peut-être le sens ultime à ces statistiques. Et c'est là qui est frappant avec le cas allemand. La langue est toujours le même critère, mais les statistiques qui sont produites servent à des analyses et des conceptions qui ont significativement changé sur un siècle. Ce qui veut dire en fait que cette statistique, si elle a été bien insérée au départ dans des relations de domination, elle a pu aussi avoir un rôle dans des revendications. Et donc, on voit que finalement, très tôt, ces statistiques, elles ont un caractère réactif. Autrement dit, que ceux qui sont catégorisés, dénombrés, dans un mode de contrainte, peuvent réagir et construire une revendication identitaire ou contre-identitaire à partir de cette mise en catégorie. Autre question, évidemment, qu'elle pose, c'est la question de la comparabilité des expériences. J'ai parlé d'une mise en place, et effectivement, il y a d'autres mises en place. Il y a le modèle colonial, le modèle américain, à partir de la race, qui est aussi une autre mise en place. Et la question qui se pose, au fond, eh bien, si on a plusieurs modèles comme ça qui émergent, eh bien, après, qu'en est-il de la circulation ? Où est-ce que l'on peut parler, chaque fois, de la même chose ou de recomposition ? Et j'en arrête là. Merci.
Ça valait bien un quart d'heure qu'on vous a laissé, Morgane Labbé. Mais c'est par rapport aux questions. Mais vraiment, merci beaucoup. C'est passionnant.
Je merci de m'avoir écouté. Merci. Merci.
Donc, y a-t-il des questions ?
Il marche. J'espère.
Madame, pensez-vous vraiment que les plénipotentiaires qui s'étaient réunis à Versailles pour définir les nouvelles frontières de l'Europe représentaient le vouloir de la population en fonction de la langue ?
Ah non, je ne dis pas qu'elle représentait le vouloir, mais je veux dire que les revendications des mouvements nationaux, des délégations, par exemple la délégation polonaise notamment, qui arrive avec une grande revendication, eh bien, elle s'appuie sur des données qui sont disponibles, qui sont des données sur la langue. Mais de toute façon, elle considère que ces données, justement, ne sont pas suffisantes. Donc, alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer avec cette carte. C'est ça l'habileté, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données qu'on considère comme biaisées, sous-estimées, falsifiées par les autorités, mais elles sont quand même là. Elles sont retravaillées, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les statisticiens, ce sont des maniaques du détail. Donc, ils font, vous avez vu, des tas de petits tableaux croisés. Alors, évidemment, des gens qui savent lire les statistiques, ils refont des additions, et ils les font dans d'autres sens. Et les Polonais, ils vont en permanence refaire des additions. Et puis là, ils vont utiliser un processus de lissage. C'est-à-dire que, où il y a des choses, des variations, des différences, ils vont lisser. Il y a donc un retravail mathématique et qui leur permet de retrouver quelque chose qui est le territoire historique de la Pologne qu'ils revendiquent en 1919.
Bon, vous faites référence à la Pologne, mais il y a beaucoup d'autres nations qui sont devenues des États autonomes.
Oui, la Tchécoslovaquie.
D'autres, vous ne pensez pas qu'il aurait fallu, pour justement respecter le droit des peuples, instaurer des référendums et demander à la population.
Ah, mais il y en a. Mais c'est ce que j'ai dit. D'abord, j'ai pas un point de vue
normatif. Il y a, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, il n'y a pas eu de référendum en ce qui concerne le nord de l'Italie, le Frioul-Tochien et le Tyrol.
Ah, mais madame, je n'ai absolument pas un point de vue normatif. De toute façon, vous avez vu. Oh, en une heure, j'étais obligée de couper.
Oui, oui, oui.
Et donc, je prends un cas que je connais mieux et parce que je pense que c'est mieux que de se disperser. Mais je ne dis pas que c'était bien ou mal. Je dis, voilà ce qu'il s'est passé. Oui. Alors, je souligne une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a des moyens de réappropriation, c'est ce qu'on appelle l'agency, par des populations qui, normalement, sont totalement dans la domination par ces productions d'État. C'est quand même un langage d'État. Et qu'il y a des réappropriations pour appuyer des revendications contre ces États. Donc ça me semble intéressant. Et la deuxième chose que je montre, c'est que, justement, il y a cet usage plébiscitaire, donc il y a un espace, un éventail d'utilisation qui est nouveau. Mais il y a aussi des plébiscites. Mais je sais qu'en ultime décision, ce sont des considérations politiques
absolument,
qui ont décidé des tracés. On le sait, mais c'est intéressant quand même de montrer ce qui s'est passé, de donner la voix aussi à ceux qui revendiquaient quelque chose d'autre et comment est-ce qu'ils le revendiquaient.
Oui, merci.
Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de la France. Ouais. Mais je sais pas, tout ce que vous avez dit qui était très intéressant aurait pu servir un peu de référence. Bon, je dis ça parce que je me suis un peu plongé dans les gens qui ont parlé sur être français. C'est cette prise de parole dont je conteste totalement, disons, les objectifs réels, je veux dire, est aussi très intéressante. J'en ai lu près d'un millier. C'est des petits trucs de 10, 15 lignes, comme ça, qui sont parus. Bon, évidemment, il y a des choses assez contestables. Mais ce que je voulais dire, c'est que la langue revient assez souvent comme un identifiant majeur de l'appartenance, disons, nationale. Ça, c'est évident. Avec des raisons pas toujours claires, ou peut-être un peu trop claires. C'est aussi un peu, on roule des mécaniques. Faut savoir parler français pour vraiment être français. On voit un peu qui s'avise. Mais en même temps, ça s'enracine, c'est évident, avec un siècle et demi, presque deux siècles d'éducation avec lire, apprendre, etc. Quoi. Bien. La réflexion que je me faisais, j'ai noté la date de 1805, je ne sais plus, mais enfin bon, c'est un peu le démarrage de la Renaissance allemande, de la Renaissance prussienne. Alors mes vagues souvenirs, je ne sais pas, 1805, ce n'est pas l'appel à la nation de Fichte, enfin, c'est au moment où Napoléon est en train de, évidemment, conquérir tout ça et aboutir à ces cartes invraisemblables où on découpe, etc., avec tous les royaumes, etc. Mais bon, c'est intéressant de savoir que ça démarre. à ce moment-là. Alors, j'avais juste une question. Est-ce que dans toutes les langues, évidemment, j'ai un peu en ligne de mire la suite, l'entre-deux-guerres et l'avènement du nazisme, est-ce que le yiddish est recensé dans toutes les langues ? Alors, qu'il y a une langue maternelle, évidemment, mais est-ce qu'on qualifie ça comme une langue d'usage ? Vous voyez ce que je veux dire.
Je remercie pour vos remarques. De toute façon, on trouve des similitudes avec la France parce qu'il y a cette politique de l'État qui passe par la langue officielle. Et effectivement, 1805 est une date importante parce que le bureau de Prussian Statistique, en fait, il est créé sur le modèle napoléonien. Donc on voit ça. Et effectivement, le premier nationalisme allemand, c'est un nationalisme de liberté contre Napoléon. J'ai déjà oublié la question. Ah oui, alors le yiddish, il est, pour le recensement polonais que je connais, en Prusse, il n'est pas reconnu. D'abord, le yiddish, il est utilisé en Prusse, mais il est très vite codé. Les juifs allemands déclarent l'allemand. On ne trouve pas de traces de yiddish, mais il y a une discussion avec les Autrichiens qui considèrent que l'on ne doit pas, justement, dénombrer les juifs comme des Allemands et qu'il faut les dénombrer comme une nationalité ou une souche distincte. Donc il y a une discussion assez forte entre les statisticiens à propos des juifs. En Pologne, le premier recensement en 21, on demande l'appartenance et on demande aussi la langue, et le yiddish est considéré comme une langue. On ne parle pas forcément de langue maternelle. Enfin, si, on parle de langue maternelle, on prend le yiddish, mais on va aussi dénombrer, ça c'est au recensement suivant, l'hébreu. Et il y a au sein de la communauté juive, on ne fait pas un accord complet sur quel serait le meilleur critère pour pouvoir dénombrer la communauté des juifs. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important pour donc les juifs polonais, eh bien, c'est très vite pour être protégé, être dans un droit de protection, être reconnu comme minorité. Et donc, il va y avoir des négociations auprès de la SDN pour que, alors qu'au départ, les juifs polonais ne se pensent pas comme minorité, eh bien, pour avoir ce statut. Alors, dans les autres pays, je ne sais pas, il faudrait effectivement. Je ne sais. Mais c'est une bonne question. Durant l'entre-deux-guerres, le yiddish, par exemple, en Pologne, il est une langue d'école, il est une langue d'écriture, une langue de théâtre, une langue de toute la renaissance, je dirais, culturelle juive de l'entre-deux-guerres, elle s'appuie sur le yiddish. Les juifs ont leur propre presse. Donc, la langue, elle s'inscrit presque dans un modèle de philologie allemande, l'importance de la langue, mais elle permet effectivement de donner les contours statistiques de la communauté juive et de revendiquer des représentants dans le Parlement, évidemment.
Oui, tout d'abord, j'ai trouvé votre exposé tout à fait intéressant. Je me posais des questions, mais qui ont trait un petit peu au lien avec l'actualité et aux statistiques ethniques. C'est vrai que quand on reprend ce que vous présentez, on se retrouve dans un espace où il y avait à la limite pas tellement de raisons d'avoir des critères anthropomorphiques pour différencier, parce qu'on aurait eu des difficultés finalement à les établir, même s'il y a eu des travaux qui ont été faits. On le voit bien, il y a eu Stéphane Jégoul qui a écrit, vous l'avez lu sans doute, La malmesure de l'homme, où l'esprit, il reprend toutes les données là, sur ce sujet. Donc ma question est la suivante, c'est qu'à partir du moment où on voit des migrations, où les critères anthropomorphiques, si on veut, ou de couleur sont beaucoup plus évidents, à ce moment-là, donc, on voit des classifications. On l'a vu, je reprends cette référence, on peut en prendre d'autres aux États-Unis ou en Europe. Et ce qui me trouble un petit peu à vous écouter, c'est que quand on écoute le débat actuel, vous savez qu'il y a un ouvrage qui est paru récemment contre les statistiques ethniques, d'autres qui sont pour, le CRAN, par exemple, le Conseil représentatif des associations noires est pour, d'autres sont contre, etc. Bon, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de clivage qui se fait, qui n'est pas très très net. Hein, par exemple, Mme Badinter est contre, d'autres sont. Mais il y a un clivage qui se fait qui fait qu'actuellement, on ne souhaite pas mettre en œuvre en France des statistiques ethniques avec disons, le soubassement suivant, c'est que on risque de mettre en cause le modèle assimilationniste. Hein, en gros, c'est très, très schématiquement, bon, ça devrait être développé. Et à l'inverse, ceux qui veulent mettre en place des statistiques ethniques disent « Attention, regardez, les travaux qui ont été faits par le Conseil économique et social, les testings, etc., montrent qu'incontestablement, dès qu'on est noir, dès qu'on est arabo-berbère, on n'a pas les mêmes chances à l'école, on n'a pas les mêmes chances de trouver un emploi, on n'a pas les mêmes chances, etc. » Donc ceux qui veulent mettre actuellement des statistiques ethniques sont plutôt sur le versant progressiste et veulent mettre des statistiques pour bien montrer, comme le font les Anglais par exemple, que la couleur de la peau, puisque c'est le critère essentiel, est un élément qui discrimine et qui empêche de trouver de l'emploi, qui gêne pour accéder à certains postes. Et ceux qui sont plutôt sur l'autre versant, qui est un versant plutôt conservateur, disent il ne faut surtout pas mettre en place de statistiques ethniques en reprenant pratiquement les éléments qu'on a retrouvés dans le Bureau des nationalités qui a été mis en place après la guerre avec Alfred Sauvy, etc., qui d'ailleurs existait avant la guerre et a mis en place aussi des systèmes antisémites, hein, puisqu'il a été, c'était les mêmes personnes qui étaient dans le bureau, hein, vous le savez. Ouais. Et donc, ces gens disent, il faut surtout pas regarder, parce que si on regarde, à ce moment-là, on va mettre en cause le modèle assimilationniste, comme si derrière il y avait une volonté de ne pas compter pour ne pas voir qu'on discrimine, parce qu'à ce moment-là, donc, on remettrait en cause le principe qui est le principe fondateur et la matrice, qui est liberté, égalité, fraternité, 1789, le fondement de la Constitution de 58, etc. Donc c'est étonnant comment on voit cette évolution. Enfin, je ne sais pas si vous faites la même analyse. Mais...
Oui, je fais à peu près la même analyse. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, dans la longue durée, on voit que le sens de ces statistiques, il n'est jamais fixé. Et à un moment donné, ça va être l'assimilation, à un autre moment donné, ça va être la discrimination ou la lutte contre la discrimination. Et donc, on revoit ça en France, puisqu'au fond, le premier débat dans les années 80, on va poser la question, parce que la question, c'est de l'intégration. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est arrêté, et le débat renaît, parce que la question, c'est plus l'intégration, c'est de lutter contre les discriminations. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, en fait, ces questions de statistiques, elles sont toujours liées à un agenda politique. D'en faire en soi quelque chose qui existe et qui porte du bien ou du mal, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a effectivement une chose, moi, que je trouvais intéressante dans la question donc, de la lutte contre cette vision qui serait la vision positive, c'est que ça nous amène aussi, l'histoire ne doit pas être utilisée, mais enfin, de trouver des expériences. On a longtemps, quand on a été contre les statistiques ethniques, eh bien, on donnait en exemple, justement, des exemples de persécution, de déplacement de population qui étaient faites. Et on ignorait d'autres usages qui sont les usages de la représentation, notamment l'entre-deux-guerres, les droits des minorités. Donc ça dure peut-être 10 ans, mais pendant 10 ans, les statistiques ethniques, ça sert dans des régimes un peu de multi-ethniques où il y a des minorités, à élire des représentants, donc à donner des droits linguistiques, etc. Donc il y a cet usage aussi représentatif positif, et c'est intéressant peut-être aussi justement dans ce débat aujourd'hui où il y a quelque chose de... c'est dans une vision positive que certaines personnes vont demander des statistiques ethniques. Alors, il y a des gens qui aujourd'hui sont pour les statistiques ethniques, ne l'étaient pas dans les années 80, comme Patrick Simon, parce qu'il y a cet agenda politique qui donne le sens ultime. Après, il y a des vraies questions qu'on peut poser. C'est la question de la réification. C'est comment après, ça peut catégoriser dans du quotidien des gens. Et puis aussi, il y a la question que posait Dominique Schnapper, qui est celle de la tradition. Est-ce qu'on est dans un modèle politique qui n'a pas cette tradition communautaire. Et donc, si on jette comme ça une statistique, ça aura des effets qu'on ne peut pas maîtriser en termes d'assignation de l'eau, désignation, multiplication des statistiques, justement, dans les services de santé, etc., et qui échapperont. C'est des vraies questions.
Attendez, on est obligé d'arrêter.
Oui, mais le politique, c'est large. Ça peut être des pour, des contre, ça peut être des tas de groupes. C'est ça, c'est à condition.
Non, je suis obligée d'arrêter. Non, mais franchement, j'ai un quart d'heure de...
J'ai honte, c'est moi qui a monopolisé le temps.
Donc, merci. Vous pouvez parler après. Merci à tous. Merci à notre public et aux étudiants d'avoir été présents cette année au laboratoire Migrinter. Merci et bonsoir.
Je vous invite à y travailler. Il y a beaucoup de documentation.